En lisant l'argument du colloque et en sur les deux premiers jours, je pense qu'il ne nous a pas échappé que l'ombre de Bruno Latour plane sur ce colloque. Donc ça se voit au titre du colloque, hein, la notion de territoire, la notion de controverse qui sont typiques du vocabulaire de Bruno Latour. Et il y a cette interrogation sur le local et le global qui est revenue plusieurs fois, hein, cette idée d'essayer de sortir de cette opposition dans laquelle on se trouve prise entre le local et le global. Et ça correspond exactement au propos de ce livre, hein, de Bruno. Bon, c'est un filigrane dans ses travaux depuis le début. Mais ça a surtout été mis en forme dans un format compact de ce livre-là, Où atterrir, comment s'orienter en politique. Et ça me semble particulièrement intéressant pour reposer cette question des communs numériques. Alors, très rapidement, Bruno Latour, dans ce livre, nous explique que nous sommes pris depuis le début de la modernité dans une sorte de mouvement qui nous emmène du local au global. On en a parlé ce matin avec, par exemple, sur l'AFD, hein, pendant longtemps. Voilà, le modèle du développement, c'était d'aller dans une émancipation qui nous sortirait des attaches locales vers une modernisation qui nous emmènerait vers le global, donc vers l'universel, avec des vecteurs qui ont été, par exemple, le marché, hein, vecteur de globalité et d'universel. Et pendant longtemps, en fait, tout ce qui nous ferait revenir vers le local était jugé comme rétrograde, réactionnaire, ringard. Et voilà, pendant très longtemps, on a été pris dans cette opposition. Et il nous explique qu'aujourd'hui, il y a une crise, en fait, de cette manière de penser qui est en partie et surtout liée à la crise écologique, qui nous fait nous rendre compte qu'en fait, ce qu'on nous a vendu comme étant le globe, le monde, que nous devions atteindre, ne sera jamais atteignable parce que la Terre n'est tout simplement pas assez vaste pour accueillir toutes les promesses de développement qu'on nous avait vendues comme étant l'aboutissement de la modernisation. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que nous ne pouvons pas retourner vers le local non plus, parce que cette volonté romantique de revenir à une attache locale telle qu'on nous la vend, notamment dans certains courants de pensée très réactionnaires, en fait, est une illusion parce que nous ne retrouverons pas de toute façon les attaches locales. Voilà. Donc il dit que face à ça, il y a une riposte qui s'est faite en jeu. Lui, sa bête noire, c'est Donald Trump. Il explique que c'est ce qu'il appelle l'attracteur numéro 4, où en fait, on a le hors-sol, c'est-à-dire que Donald Trump, il incarne pour lui celui qui refuse de voir les limites planétaires et donc qui continue à développer la politique de développement au maximum en refusant, voilà, qui est hors sol, mais qui a réussi quand même à capter les aspirations réactionnaires de ceux qui étaient attirés par l'attracteur local. Et il imagine, en fait, que si on veut sortir de l'opposition et ne pas tomber dans le hors sol, eh bien, nous allons pouvoir, en faisant une sorte d'inverse de Donald Trump, nous faire attirer par un autre attracteur qu'il appelle le terrestre, qui est celui qui, justement, retrouve le sol. Qui retrouve un sol, et lui, le sol, c'est qu'il retrouve le contact avec un territoire qui prenne en compte cette question des limites et qui ne refuse plus de définir son identité par rapport à un lieu, mais qui le fait de manière ouverte et qui ne le fait pas de manière fermée et qui essaie de se réattacher sur le sol. Et l'exemple qu'il donne souvent, c'est celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui pour lui a été un exemple, voilà, de lutte qui s'est reterritorialisée sans se fermer, en prenant compte cette question du terrestre, hein, des limites de la Terre. Et voilà. Alors la question que je voudrais poser, c'est comment les communs, tels qu'ils sont conceptualisés aujourd'hui, se situent dans cette quadrangulation des attracteurs politiques. Et alors, ça va rejoindre l'argument général du colloque. Il y a un très gros risque que la manière dont on nous présente les communs naturels, les communs dits naturels, soit attiré par l'attracteur local. Il y a une certaine tendance, hein, à romantiser cette vision des communs naturels, en faire un retour des pratiques traditionnelles, voilà, etc. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'intervention de Siemensa ce matin, qui nous a dit qu'ils ne sont pas dans cette logique-là, mais il y a une façon de vendre les communs naturels qui pourrait nous y pousser. Et les communs numériques, hein, ce qu'on appelle voilà, les logiciels libres, Wikipédia, toutes ces nouvelles formes de communs qu'on trouve sur Internet, eux ont de très grandes chances, et jusqu'à présent, sont des figures du global. Hein. C'est-à-dire voilà, Wikipédia, encyclopédie mondiale de la connaissance, Internet qui va nous permettre d'abolir l'espace et le temps pour une diffusion immédiate des connexions sur Terre. On vend ça comme un cerveau global qui va permettre d'interconnecter tous les esprits de la planète. Alors moi, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'en fait, pour s'orienter sur cette carte, bon déjà, il y a même un très grand risque que les communs numériques finissent par être attirés par le hors-sol. Je vous montrerai que c'est hélas une des façons de les penser nous amène vers le sol. Et moi, j'aimerais savoir si on peut les faire atterrir, c'est-à-dire les faire se poser sur un sol, mais au sens où la tour l'entend, un sol terrestre. Voilà. Donc c'est un peu le pari de cette intervention. Alors, là, il faut se plonger dans la manière dont on nous présente les communs en général. Les gens qui réfléchissent aux communs depuis 10 ans adorent faire des typologies, ils adorent faire des cartographies, et ils adorent ranger les communs dans des catégories. Exercice qui peut être utile, hein, notamment ça a été utile quand Charlotte Hess le fait, quand elle parle des nouveaux communs, c'est utile parce qu'elle montre, elle ouvre des champs où la logique des communs peut s'investir, hein, donc c'était utile. Mais quand on fait ce genre de choses, on manie en général des sous-entendus non questionnés qui aboutissent à des résultats problématiques. Là j'en ai mis une de cartographie qui est faite par Michel Bowens, qui nous explique en gros que dans les communs, il y a des communs matériels et immatériels, où il y a des communs hérités ou produits. Et donc, il arrive à une typologie où il nous dit, par exemple, un commun numérique, c'est un commun qui est immatériel et produit, ce qui ne serait pas la même chose qu'un commun culturel qui, lui, serait hérité et immatériel, qu'un commun naturel, il est à la fois hérité et matériel, et qu'il y a des communs sociaux qui seraient, eux, matériels et produits. Le gros problème de ce genre de typologie, c'est que ça sous-entend implicitement qu'un commun numérique n'est jamais culturel, ou qu'un commun numérique n'est pas social, ou qu'un commun social n'est pas naturel. Et vous arrivez à un éclatement qui aboutit à des antagonismes. Et alors là aussi, j'ai beaucoup aimé l'intervention sur Simensa ce matin, parce que vous voyez, Simensa, c'est quoi? C'est un commun naturel? Ben non, en fait. Ils nous ont dit que ce qu'ils avaient fait entre les paysans, c'est de créer une association culturelle. C'est un commun qui ne serait pas numérique. J'ai noté quand même qu'ils ont une activité sur Telegram où ils partagent des informations et qui se coordonnent aussi avec ces outils-là. Et évidemment, c'est un commun social. Donc vous voyez, cette manière de ventiler les communs est problématique dans ce qu'elle produit ensuite. Et la plus grande distinction, c'est quand même la distinction entre les communs matériels et immatériels. Si vous voulez. Cette distinction-là, elle est particulièrement problématique, elle est particulièrement puissante. Alors quand on lit la littérature des communs, en fait, vous avez même ce que moi j'appellerais, comme les juristes disent ça, une summa divisio, c'est-à-dire une grande séparation. Bruno Latour dirait un grand partage entre ce qu'on nous vend comme des communs naturels et des communs de la connaissance. Et ça se décline. Un commun naturel, on va vous dire que c'est un commun matériel, que c'est un commun tangible, environnemental, que c'est un commun territorial, un commun urbain. Voilà. Et à côté de ça, vous auriez des communs de la connaissance qui vont être des communs immatériels, intangibles, des communs de l'esprit, des communs informationnels ou des communs culturels. Alors cette division, elle est très problématique en fait. J'ai essayé de vous montrer. Enfin moi, j'ai fini par arriver à la conclusion qu'elle était très problématique. Et ça rejoint tout à fait ce que Bruno Latour essaie de dénoncer depuis très longtemps, notamment depuis son livre « Nous n'avons jamais été modernes ». Le grand partage occidental, de la pensée dualiste occidentale, entre nature et culture. C'est une sorte de reproduction de cette division-là qui est fondatrice dans notre manière de concevoir les choses. Et alors moi, je vais repartir d'Elinor Ostrom, et notamment et de Charlotte Hess, avec qui elle a notamment construit la question des communs de la connaissance, en vous montrant qu'en fait, c'est une distinction qui est erronée, y compris dans la manière dont Ostrom et Hess présentent les choses. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais dit ça. Voilà. Alors, en ce moment, il y a une chose que je trouve très, très dangereuse. C'est, moi, j'appelle ça la vulgate des communs. C'est-à-dire qu'on arrive à une phase de diffusion de la pensée des communs qui nécessairement se traduit par des simplifications. C'est normal, hein, parce que pour qu'une pensée se diffuse, il faut la simplifier. Mais Elinor Ostrom, c'est quand même c'est quelqu'un qui pense la complexité. Et c'est très, très dur de simplifier Elinor Ostrom sans aboutir à des réductionnismes et à des déformations. Et là, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, sur la question des communs de la connaissance, elles avaient une pensée très, très subtile. Et notamment, dans Understanding Knowledge as a Commons, hein, c'est le livre en 2007 qu'elles font paraître, enfin qu'elles dirigent, c'est un ouvrage collectif, et elles font l'introduction théorique. Et elle, en fait, elle montre que les communs de la connaissance ont une dimension matérielle. C'est complètement intégré dans leur, dans leur, dans la manière dont elle systématise ça. Et inversement, alors ça, je vais pas pouvoir en parler, mais ce serait extrêmement intéressant. C'est que depuis même Governing the Commons, Ostrom montre que les communs matériels ou dits naturels sont aussi des communs de la connaissance. Elle ne fait pas du tout cette séparation, y compris pour les communs naturels. Alors, j'ai mis des petites dates entre crochets, vous verrez dans ma présentation, parce que la chronologie a beaucoup d'importance. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait, c'est que cette leçon initiale d'Ostrom et Hesse a été oubliée dans la manière dont nous avons pensé les communs de la connaissance. Et ça s'est fait recouvrir par une autre généalogie des communs qui vient d'autre part. Et qui l'a recouverte, si vous voulez. Et il faut gratter un peu pour retrouver ce plancher-là qui est très, à mon avis, très important. Alors pourquoi est-ce que, alors chez Ostrom et Hesse, elles disent même que les communs de la connaissance ont une dimension biophysique, ce qui paraît un peu étrange au premier abord. Quand on va dans Understanding Knowledge as a Commons, Ostrom et Hesse utilise le modèle classique qu'Ostrom utilise pour décrire les situations de commun, qui s'appelle le modèle IAD, Institutional Analysis Development, qui est le modèle voilà qu'elle a forgé hein, pour faire ses descriptions. Et dans la colonne de gauche, vous voyez, on retrouve ces trois éléments, les caractéristiques biophysiques, les caractéristiques de la communauté, les règles en usage, ce qu'elle appelle les variables exogènes. Et c'est de ça qu'on a fait, vous savez, le fameux triptyque un commun, c'est une ressource gérée par une communauté avec des règles. Ça, par exemple, ça pour moi, ça c'est vraiment la vulgate des communs. Vous voyez, c'est pas tout à fait ce qu'elle disait d'ailleurs, mais bon, elle appelle ça les caractéristiques biophysiques, les caractéristiques de la communauté, et les règles en usage. Alors déjà, dans un commun dit naturel, c'est plus compliqué pour elle, parce que ce qu'elle appelle caractéristiques biophysiques, ça se sépare en deux. Si vous prenez par exemple une forêt qui sert à une communauté pour s'alimenter en bois, elle va vous dire, la forêt, en fait, elle est divisée en deux. Vous avez un système de ressources, c'est la forêt en tant qu'écosystème, hein, avec les arbres qui poussent, etc. Et ça produit ce qu'elle appelle des unités de ressources que les communautés d'usagers vont aller prélever. Donc déjà, bon, voilà, les caractéristiques biophysiques, pour elle, c'est un peu plus compliqué. Mais pour les communs de la connaissance, Ostrom et Hesse disent, en fait, on ne peut pas partir de ce présupposé-là, il faut changer le modèle. Et elles le disent au-dessous, là, la nature complexe du savoir en tant que commun, que bien commun, exige une triple distinction parce qu'il est composé à la fois d'éléments humains et non humains, infrastructures, artefacts et idées. Et donc, elle redéplie l'élément caractéristique biophysique, vous voyez, qui est ici. Et elles vous disent, en fait, un commun de la connaissance, c'est dans l'élément, on va dire, ressources, ça se distingue en trois, vous avez les idées, les artefacts et les installations, en fait, bon, c'est facilities en anglais, qui se traduit plutôt par infrastructure. Donc, vous avez un triangle qui est entre idées, artefacts et infrastructure. OK? Bon, alors ça, si vous voulez, dans la littérature sur les communs de la connaissance, personne n'en parle. C'est-à-dire que, voilà, Ostrom et Hesse l'avait posé dans... D'ailleurs, c'est même étonnant parce que dans Understanding Knowledge as a Commons, elles en parlent, mais tous les autres qui écrivent dans le bouquin n'en parlent pas. Et j'ai jamais vu de reprise vraiment qui prenait au sérieux cette tripartition, en fait. Voilà. On dit c'est la ressource. Le logiciel, c'est la ressource. On va dire le, voilà, Internet, c'est une ressource. Voilà. Un peu avant Understanding Knowledge as a Commons, Ostrom et Hesse détaille ça dans un article qui paraît en 2003. Alors, une chose qui joue, c'est pour comprendre bien qu'est-ce qui se joue là-dedans. Charlotte Hesse, en fait, c'est une bibliothécaire. Alors, vous savez que moi, je suis à la base bibliothécaire. Je pense que ça a une certaine importance. Vous voyez, on a une bibliothèque ici. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que oui, un commun de la connaissance, vous avez ce qu'elles appellent de l'ordre des idées, qui est là, oui, et l'élément immatériel, des idées, des informations, des données. Mais que ces éléments-là sont jamais séparables des artefacts. Donc, dans la bibliothèque, vous avez des idées, mais ils sont dans des livres. Ils sont des objets qui même sont dans une bibliothèque, qui est l'infrastructure. Et ce qu'elles veulent dire, c'est que ces trois éléments-là sont, c'est pas des choses qu'on peut séparer. C'est-à-dire, on peut les séparer conceptuellement, mais on pourra jamais les séparer, en fait, parce que ça forme un agencement, pour parler comme Latour, qui, lui, n'est pas séparable et qui forme un réseau. Et vous voyez, dans la pensée économique classique, les économistes font pas comme ça, en fait. Ils vont vous, là, le tableau qui est là, c'est le fameux tableau de la typologie des biens selon les économistes, hein, qui vient de Paul Samuelson, voilà, etc. On vous dit il y a des biens publics, des biens privés, des biens communs, etc. Et on vous dit toujours la connaissance, c'est un bien public. Sous-entendu d'ailleurs que ce serait le bien public le plus pur de tous, le plus pur de tous les biens publics purs, parce qu'il est non excluable et il est non rival. Moi, si j'ai une idée, par exemple, je vous en parle, vous l'avez, moi je l'ai gardée, donc c'est non rival. On peut la partager à l'infini, voilà, pour se répandre sur toute la Terre. Et il est très difficilement excluable parce que les idées se répandent, vous savez, à la vitesse de la pensée. Voilà. Mais chez Ostrom, ok, elles reconnaissent ça, mais ce n'est qu'un des éléments d'un triptyque. Et si vous regardez bien, sur ce qu'elles appellent des artefacts, qui sont en fait des objets, elles ne séparent pas les objets numériques et les objets dits physiques. C'est-à-dire que dedans, elles y mettent les livres, les articles, les pages web, les bases de données et même les fichiers. C'est-à-dire qu'un fichier, qui contient soit des 0 et des 1, si vous voulez, pour elles, c'est un objet. Ou même rien qu'un livre. Ça nous ramènera d'ailleurs à la discussion compliquée qu'on a eue hier sur papier versus numérique. Pour elles, elles ne font pas vraiment cette distinction. Pour elles, c'est un objet. Et dans ce qu'elles appellent les infrastructures, elles vont mettre une bibliothèque ou un centre d'archives. C'est une infrastructure qui contient les objets, qui contiennent les idées. Et elles vont y mettre une bibliothèque numérique, une archive ouverte sur Internet, le réseau Internet lui-même ou un réseau local. Voilà. Donc, vous voyez cette... et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans le titre, là, c'est un sous-titre de l'article, ils nous disent « idées, artefacts, infrastructures ». La composition, the ecological makeup, ça veut dire la composition écologique de l'information. Ce cadre-là, il change beaucoup de choses, si vous voulez, quand on essaie d'analyser le numérique ou, par exemple, bon, Internet. Là, je vous prends un article qui a été écrit par Charlotte Hess toute seule, hein, elle a écrit aussi seule, qui paraît en 1995, qui s'appelle The Virtual CPR, donc c'est Common Spatial Resources, hein, c'est les biens communs au sens d'Elinor Ostrom. Internet comme un commun local et global. Alors c'est très intéressant cet article parce qu'elle explique qu'en 1994, elle c'était en fait la bibliothécaire, la documentaliste du projet du séminaire d'Elinor Ostrom, le fameux séminaire qu'elle avait à l'université de l'Indiana et qu'elle avait été chargée par le séminaire de mettre en place un site internet avec les textes et la bibliographie du projet. Alors on est en 1995, il n'y a même pas encore vraiment le web à cette époque-là. Elle le fait en utilisant un protocole qui s'appelait Gopher, qui permettait déjà de faire de l'hypertexte. Et alors pour elle, elle explique que c'est très compliqué. Et elle se rend compte qu'une fois qu'elle a mis ça en place dans son université, elle fait cracher les autres ressources numériques que les autres centres de recherche avaient mis en place. Et là, elle se dit, ah mais en fait, Internet, c'est pas du tout un monde de l'illimité comme on nous l'a vendu, en fait. C'est-à-dire que c'est pas non-rival. Là, moi, j'ai utilisé les ressources que l'université mettait en place et j'ai fait tomber les ressources des autres centres de recherche. Donc, elle se dit, ben, en fait, c'est très, très proche de ce qu'on a observé avec Ostrom dans nos approches des communs dits naturels. Et alors là, ce qu'elle fait, c'est que comme elle utilise hein, la tripartition, déjà, là, à ce moment-là, infrastructure, objet et idées, elle dit, bon, c'est quoi Internet ? Bon, ben, c'est la machine que j'ai devant moi. Ah, ben, il y a un fil. Ben, je vais suivre le fil. Le fil, il va à un serveur. Ah, le serveur, il a d'autres fils. Les autres ordinateurs du laboratoire, ils sont reliés à ce serveur. Ce serveur-là, il est relié au système d'information de l'université. Donc, elle fait la carte du système d'information de l'université. Elle dit, voilà, il y a plusieurs serveurs qui sont ici et là, dans tel bâtiment. Ils sont reliés par des fils, etc., etc. Elle dit, finalement, ce réseau-là, il est relié à un réseau plus général qui est régional, qui est celui de l'Indiana en général. Il est structuré de telle ou telle façon. Et ce réseau, en fait, c'est un réseau qui est relié au réseau des réseaux qui est Internet, par des câbles. Voilà. Et elle fait une description qui n'a absolument rien d'immatériel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle suit les fils. D'ailleurs, elle dit qu'elle aime beaucoup l'expression autoroute de l'information de l'époque, hein, la fameuse expression de Al Gore, parce que ça lui permet voilà, de comprendre que Internet, ce sont de cheminer avec des choses. Et elle finit par dire dans cet article que Internet, pour elle, c'est quatre communs qui sont enchâssés. Il y a un commun techno, une infrastructure technologique, techno infrastructure commons, qui est le réseau tout à fait physique, hein, des machines, des serveurs et des câbles et des routeurs qui acheminent l'information. Elle dit, ça c'est assez amusant, elle dit il y a un commun budgétaire, parce que pour faire ça, moi j'ai besoin d'argent qui est dans mon université. Et elle dit, le budget de mon université, c'est un commun finalement. Et à tous les niveaux, il y a besoin d'un budget. Donc elle dit, j'ai un commun budgétaire. Ensuite, elle dit, il y a un commun social, parce que les gens ensuite qui utilisent cette ressource, ben, ils forment une communauté là, qui a un commun social. Et seulement à la fin, elle dit, oui, il y a un commun informationnel, qui est l'information au sens des idées qui circulent sur le réseau. Et ça, si vous voulez, moi, ça me, je trouve que c'est. Elle imagine donc Internet depuis le sol. C'est-à-dire qu'elle est sur, elle est sur un sol. Elle l'imagine dans sa matérialité. Et elle monte en généralité petit à petit en suivant le réseau qui se forme, mais le réseau au sens physique. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette vision des choses, c'est que pour là, pour Internet, là, à ce moment-là, pour Charlotte Hess, Internet est à la fois local et global, si vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas un commun d'emblée global. Il a une localité et il a une généralité qui progresse. Voilà. Alors ça, c'est complètement latourien. Je ne sais pas si vous avez noté, hier, moi j'ai noté ça, ça c'est un des gros acquis du colloque, c'est que Jean-Louis Laville nous a dit qu'il intégrait Elinor Ostrom dans l'évolution de la pensée critique et il l'a raccroché justement à l'école pragmatiste. Et il a dit, quelque part, Elinor Ostrom est latourienne. Parce qu'en fait, Latour, lui, depuis longtemps, nous dit qu'en fait, le numérique, c'est pas du tout quelque chose qui nous fait passer du matériel au virtuel, c'est quelque chose qui nous fait passer du virtuel au matériel. Il dit, le web rematérialise des choses qui étaient virtuelles. On peut suivre maintenant des appartenances, des échanges, etc., et rendre traçables les choses. Regardez toutes les discussions qu'on a eues tout à l'heure autour du café. Ça, c'est virtuel. C'est-à-dire que c'est évanescent au possible. Ces discussions n'ont laissé aucune trace nulle part. Elles se sont évanouies, à part dans notre mémoire, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est virtuel. Par contre, si vous faites la même chose sur Internet, tout ce que vous allez échanger va laisser une trace quelque part. Et cette trace, en fait, elle n'est pas du tout virtuelle. Elle est matérielle parce qu'elle est inscrite quelque part dans l'infrastructure physique. Vous allez être inscrit sur un processeur, vous allez être inscrit quelque part. Donc, ce que fait Internet, c'est qu'au contraire, il matérialise les choses. Et là, je vous ai mis à droite quelques schémas. Latour, dans Nous n'avons jamais été modernes, se demande si qu'est-ce que c'est que le local et le global? Et il prend l'exemple du chemin de fer. Il dit, est-ce qu'un chemin de fer, le réseau de chemin de fer, est-ce qu'il est local ou global? Il dit, il est toujours local. C'est-à-dire, vous êtes toujours à un endroit du chemin de fer. Vous êtes toujours sur les rails à un endroit, dans une gare. Voilà, il est toujours local. Il dit, est-ce qu'il est global? Ben non, il n'est pas global parce que vous ne pouvez pas aller partout en chemin de fer. D'ailleurs, on le sent bien quand on va à Cerisy. On peut plus aller, on ne peut pas aller à Cerisy en chemin de fer. Il dit, la question, ce n'est pas de savoir si c'est local ou global, la question, c'est de savoir si le réseau est court ou long. Donc le réseau s'allonge, il met en avant la question du branchement, mais le réseau, il n'est jamais global, il est toujours local. Quand vous envoyez un mail avec Gmail, votre mail, il part aux États-Unis, et il revient sous la mer pour être acheminé à quelqu'un, même si j'envoie ici j'envoie là un mail à Zilk avec une boîte Gmail, le paquet de données, d'ailleurs c'est une impulsion électrique, va partir jusqu'aux États-Unis et revenir jusqu'ici en fait. Et ça, c'est pas du tout quelque chose d'immatériel. Hein. Je vous ai mis la photo des câbles, là, c'est des câbles énormes qui tiennent avec des gros piliers en béton sous la mer. Et à côté, là, cette carte aussi, c'est la carte des zones blanches d'Internet en France. Tous les points rouges, c'est un point aujourd'hui où Internet ne passe pas. Ça aussi, on le sent un peu à Cerisy. Hein. Vous avez remarqué. C'est-à-dire que oui, le réseau Internet, il n'est pas global. Il est toujours local parce qu'il y a des zones dans lesquelles le réseau ne passe pas, quoi. Cette vision-là, hélas, elle est recouverte par une vision hors sol du numérique qui est très répandue. Par exemple, on va vous dire aujourd'hui, le numérique, ça permet de faire du cloud computing, de l'informatique en nuage, sous-entendu que nos données seraient stockées quelque part dans un nuage informatique. Alors, les gens qui s'intéressent au logiciel libre disent There is no cloud, it's just someone else computer. Il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de cloud, c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un. Et nos, en fait, elles ne sont pas du tout stockées dans un nuage, nos données. Elles sont stockées dans les data centers de Google, de Facebook, qui sont des immenses hangars extrêmement matériels. Voyez. Donc, cette question-là, on nous vend Internet comme quelque chose d'immatériel, mais en fait, c'est faux. Il y a aussi tout le discours sur les plateformes. C'est-à-dire qu'on vous dit aujourd'hui, les GAFAM, Google, Amazon, tout ça, ce sont des plateformes. Et ça nous installe un imaginaire d'une sorte d'entité qui planerait au-dessus du sol. Là, j'ai mis une image de soucoupe volante géante. Mais c'est un peu ça qu'on nous vend. C'est-à-dire, et d'ailleurs, elles-mêmes se comportent de cette manière-là, parce qu'elles projettent cet imaginaire pour se couper de toutes leurs attaches avec le sol. C'est-à-dire ne pas payer d'impôts, ne faire en sorte que le droit national ne s'applique pas à elles, etc. Et ça va même très loin, parce que là, je vous ai mis un projet de Google que j'aime beaucoup, qui s'appelle Google Loon, en fait, où vous savez, ils veulent faire le bien du monde. Donc, ils veulent que les Africains puissent se connecter à Internet. Et pour le faire, ils ont imaginé d'envoyer de gigantesques bornes Wi-Fi qui sont portées par des ballons et qui, ils imaginent envoyer des flottes entières de ballons au-dessus de l'Afrique pour pouvoir donner accès à Internet aux Africains. Et si vous voulez, je soupçonne très fort ce projet de pas être, d'avoir un but en fait très symbolique, de nous faire croire qu'Internet est une chose évanescente qui n'a plus aucun contact avec le sol et qui flotte dans l'azur de Mallarmé. Donc tout ça est voilà. Alors, maintenant revenons à Ostrom et au commun de la connaissance. Donc, si vous voulez, du point de vue d'Ostrom, tout ça n'a pas de sens. Parce que si on appliquait rigoureusement sa tripartition idée, artefact, infrastructure, et si on prenait au sérieux l'idée que ces trois éléments sont inséparables, on ne se permettrait jamais ce type d'analyse. Parce qu'on aurait toujours en tête, notamment la dimension infrastructurelle. Le problème, c'est que, y compris dans la pensée des communs numériques, vous avez une certaine généalogie qui s'est construite complètement hors sol. Alors, je vais vous montrer d'où ça vient. Ça nous vient, en fait, d'un courant qui vient, en fait, de Californie, qui a été un point central pour incuber tout ce qui est la cyberculture, etc. Cette personne-là s'appelle John Perry Barlow. C'est quelqu'un d'extrêmement connu des activistes du numérique. C'est une sorte de star de nos milieux. Moi, j'ai vénéré cette personne pendant très longtemps, qui est très connu pour avoir pondu en 1996 la Déclaration d'indépendance du cyberespace. Texte mythique. En 1996, le gouvernement américain commence à faire une loi sur les télécommunications qui est très très menaçante pour les libertés numériques. Voilà. En gros, il considère que Internet, c'est comme le téléphone, et ils vont se donner des pouvoirs de régulation très très puissants. Et John Perry Barlow, qui était un défenseur des libertés sur Internet, fait ce texte. Alors, je vous ai porté un petit accessoire. Ça, c'est une anecdote, mais c'est amusant. Ça, c'est une version de la Déclaration d'indépendance du cyberespace, qui est un peu une relique sacrée, parce que, en gros, si vous voulez, tous les membres de la Quadrature du Net ont ça, parce qu'on a un de nos membres qui adore faire de l'imprimerie. Et donc, on a imprimé la Déclaration d'indépendance du cyberespace. Voilà, et tous les membres fondateurs ont reçu un exemplaire. Je l'ai eu au-dessus de mon lit, je l'ai lu. Voilà. Exactement. Mais alors, John Perry Barlow, c'est quelqu'un de très particulier. De la première partie de sa vie, ça a été un cow-boy, un vrai cow-boy dans l'Ouest américain, dans le Wyoming. Il élevait des vaches dans l'Est. Après, il est complètement parti dans les années 60 dans les communautés hippies et dans les communautés psychédéliques. Et il est devenu parolier du groupe de rock, le Grateful Dead. Et ensuite seulement, il est devenu activiste numérique. Alors, vous allez voir que ce cheminement n'est pas complètement anodin. Et là, je vous lis un peu quelques passages de la Déclaration d'indépendance du cyberespace. « Gouvernement du monde industriel, vous, géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, la nouvelle demeure de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous du passé de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons. Le cyberespace est fait de transactions, de relations et de la pensée elle-même, formant comme une onde stationnaire dans la toile de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas où vivent les corps. Vos concepts légaux de propriété, d'expression, d'identité, de mouvement, de contexte ne s'appliquent pas à nous. Ils sont basés sur la matière et il n'y a pas de matière ici. Nos identités n'ont pas de corps, c'est pour toi, contrairement à ce qui se passe chez vous, il ne peut pas chez nous y avoir d'ordre accompagné de contraintes physiques. » Et il termine en disant « Nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le cyberespace, qu'elle soit plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé auparavant. » J'imagine que vous commencez à voir un petit peu le problème de ce genre de vision, qui est très très belle, c'est quelqu'un qui savait écrire, mais qui est un petit très très problématique, si vous voulez, dans ce que ça véhicule comme image de la représentation du monde. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous parle de cyberespace? Alors, pour John Perry Barlow, le cyberespace, l'inverse, c'est le mid space. Donc le mid space, pour lui, c'est la réalité. C'est là où nous sommes, là, ici. Et mid space, ça veut dire l'espace de la viande. C'est même pas l'espace de la chair, c'est l'espace de la viande. Et en fait, sa notion de cyberespace, lui, il l'a prise dans la littérature de science-fiction, notamment un roman de William Gibson qui a été crucial, qui s'appelle Neuromancien, où c'est en 1984. Il imagine en fait que il y avait déjà Internet, mais c'était très très frustre. Et dans cette époque-là, lui, il imagine, William Gibson, qu'on se connectera à Internet en se connectant en fait directement la prise dans le cerveau. Et que l'accès aux données se fera par une projection de l'esprit dans l'espace virtuel. Et John Perry Barlow, bon, lui, il adore cette vision des choses. Il dit, à l'ouverture du cyberespace, l'humanité vit actuellement la plus profonde transformation de son histoire. En entrant dans le monde virtuel, nous habitons l'information. En réalité, nous devenons information. La pensée est incarnée et la chair est faite parole. C'est extrêmement bizarre. Et donc, John Perry Barlow détestait l'expression autoroute de l'information. Et c'est pour ça qu'il voulait pousser le concept de cyberespace, parce que pour lui, c'était déjà beaucoup trop matériel. Et c'était aussi beaucoup trop susceptible de contrôle par l'État. Parce que c'est évidemment, quand vous câblez un pays tout entier, comme voulait le faire Al Gore, ça va se faire par l'État et par les grandes compagnies de télécommunications. Et vous avez besoin d'un investissement massif. Voilà. Un petit peu plus tard, et là, vous allez voir qu'on retrouve le lien avec les communs. Donc, John Perry Barlow est en Californie. C'est le début de la mise en place de la Silicon Valley, en fait. Les industries du numérique s'installent là-bas. Et il y a une initiative qui va être mythique, qui en 1985 s'ouvre, qui s'appelle The Well. Ça veut dire The World F Electronic Link, les liens numériques de toute la Terre, qui est en fait tout simplement un forum virtuel que la personne qui est à gauche l'a mis en place, qui s'appelle Stewart Brandt, extrêmement connu des milieux numériques. Et c'est une des premières communautés en ligne. C'est des gens qui se réunissent là dans des forums pour discuter, tout simplement. Et ils ont des échanges électroniques. Ça a été une expérience refondatrice pour plein de gens. Barlow, des tas d'activistes numériques, mais aussi pour Steve Jobs, si vous voulez, hein, ou des gens qui étaient là à ce moment-là. Et un peu plus tard, vous avez une personne là qui s'appelle Howard Rheingold, qui écrit ce livre qui s'appelle « The Virtual Community ». Et si vous voulez, tous ces gens-là ont baigné dans la culture hippie. C'est des gens qui avaient voulu refonder des communautés tout à fait physiques et qui voulaient sortir du système et qui ont voulu les refonder physiquement, qui ont voulu aller dans les marges et recommencer quelque chose. Ces communautés ont échoué, hein, même si à un moment, il y avait plus d'un million d'Américains hein, qui étaient partis comme ça dans les communautés hippies. Ça a échoué. Et eux, quand ils découvrent The Well, ils se disent « Ah ben là, ça y est, en fait. On va pouvoir le refaire. » Et on va réussir parce que ce qui nous gênait, c'était la dimension physique des choses. On va pouvoir recommencer des communautés de l'esprit. Et là, John Perry Barlow, plus tard, écrit ce texte. Hein, c'est un texte qui s'appelle « Living Physical World », quitter le monde physique. Et il dit « Ça y est, les communs ou quelque chose du genre a été redécouvert. À nouveau, les gens des banlieues avaient un endroit où ils pouvaient rencontrer leurs amis au hasard. Ils avaient un endroit où leur corps pouvait rester pendant que les entreprises pour lesquels ils travaillaient, brassaient leur corps à travers l'Amérique. Ils pouvaient développer des racines qui ne pourraient être arrachées par la force de l'histoire économique. Ils avaient un intérêt collectif, ils avaient une communauté. » Et là, le discours des communs réapparaît très fortement. Hein, et à ce moment-là, Barlow fonde une ONG qui s'appelle The EFF, l'Electronic Frontier Foundation, qui est la grande association. C'est un peu, toute proportion gardée, la Ligue des droits de l'homme américaine pour la défense des libertés sur Internet. Et nous, on a créé en France la Quadrature du Net à l'image de cette organisation pour défendre les libertés. Et le mot « électronique frontière » vient du fait qu'en fait, ils imaginaient que c'était la nouvelle frontière qui pourrait être indéfiniment repoussée, quoi. C'est-à-dire la frontière à conquérir qui serait indéfiniment repoussée. Alors à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que les gens qui travaillaient autour d'Ostrom et ces gens-là se croisent. Et en fait, ils se citent les uns des autres. Ostrom, elle cite Barlow. Ostrom, elle cite aussi cette personne là qui s'appelle Mark A. Smith, qui a écrit cet article vraiment très intéressant qui s'appelle « Voice from the Well », où il analyse les échanges des gens qui sont dans le site, là, le forum. Et vous avez vu, le sous-titre est vraiment intéressant, ça s'appelle « The Logic of the Virtual Commons ». Virtual Commons, c'est une référence à ce livre-là, « The Virtual Community ». Et The Logic of the Virtual Commons, c'est une parodie, vous savez, de Mancur Olson, The Logic of Collective Action, qui est une des sources majeures d'Ostrom. Et là, on est en 92, Governing the Commons est déjà sorti, il sort en 90. Et Mark A. Smith, il applique les éléments de la théorie d'Ostrom à la communauté de The Well. Et il explique notamment qu'en fait, c'est une communauté qui produit des biens collectifs. Il dit, voilà, il y a un bien de social, un capital de connaissances. Et le troisième bien collectif, c'est une communion. On est encore dans ce truc un peu spirituel qui habite ces gens. Et il dit, c'est une production d'un bien collectif. Et en fait, il y a des problèmes de passagers clandestins. Donc, il applique Mancur Olson. Hein. Mancur Olson, il est connu pour ça. Hein. Il introduit la question du passager clandestin. Et il explique que tout l'enjeu de ces communautés, c'est de se réguler pour réguler les passagers clandestins. En fait, c'était des trolls. Hein. qui perturbaient les voilà, il fallait trouver des moyens de régulation des échanges pour éviter ça. Et là, en fait, vous avez le croisement entre ces deux traditions qui se fait à ce moment-là, au début des années 90. Et c'est des gens qui allaient hein, dans le séminaire d'Ostrom et qui les croisent. Moi, j'ai beaucoup lu les notes de bas de page de ces articles et on voit qu'ils se citent les uns les autres. Et alors, le point de contact avec tout ça, qui est assez intéressant, c'est ça va être la question de la propriété intellectuelle. Parce que John Perry Barlow déteste la propriété intellectuelle. Et pourquoi, en fait, il la déteste ? Parce que, pour lui, il a écrit cet article, là aussi, que Ostrom cite, hein, qui s'appelle « Selling Wine Without Bottle, l'économie de l'esprit dans le net global ». Donc, il dit « La propriété intellectuelle, le problème, c'est que ça nous oblige à faire avec les idées comme si elles étaient encore matérielles. » C'est-à-dire qu'on avait enfin un moyen de communication qui allait nous permettre de transmettre des idées pures, sans support matériel. Et il dit, si vous les mettez dans la propriété intellectuelle, vous nous obligez à faire comme si le fichier que je pourrais donner à vous tous, eh bien, je vais être obligé de le garder, je ne pourrais pas vous le prêter. La propriété intellectuelle, le droit d'auteur notamment, nous oblige à faire comme si les œuvres de l'esprit étaient encore encapsulées dans des choses matérielles. Et il dit, l'intérêt du numérique, c'est justement de nous libérer de cette contrainte des supports matériels. Et donc, on ne peut plus appliquer ces concepts économiques qui, pour lui, sont complètement dépassés et qui sont liés, en fait, à l'âge industriel. Le droit d'auteur, il naît avec l'imprimerie, en fait. Il est lié au contrôle des objets qui étaient les livres. Et plus tard, ça a été les disques, etc. Voilà. Et donc, c'est pour lui, c'est vraiment un vestige qui est lié au monde matériel et qui n'a plus aucun sens dans le numérique. Et il écrit cet article-là en 94. Et alors, si vous voulez, le décrochement, il se fait là. C'est une autre personne qui s'appelle James Boyle, qui va être à l'origine de l'idée, qui a un livre très important qui s'appelle The Public Domain, qu'il appelle Enclosing the Commons of the Mind, enclore les communs de l'esprit. Alors, James Boyle, il est intéressant, lui, parce qu'il n'est pas américain, il est écossais. Et il amène avec lui toute l'histoire anglaise, anglo-saxonne, de l'enclosure des communs. Et il écrit un article aussi en 2003 qui s'appelle « Le second mouvement d'enclosure ». Il va nous dire ce qui se passe avec la propriété intellectuelle sur Internet, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Terre au début du 19e siècle. Il y a une enclosure du commun. Et ce que ça enclos, c'est une chose qu'il appelle le « the public domain », le domaine public, qui est le domaine des idées libres. Il nous explique ce que fait la propriété intellectuelle, c'est la même chose que ce qu'ont fait les barrières autour des champs. Et il appelle, lui, son but, c'est de créer une mobilisation pour faire s'allier les gens qui combattaient l'extension du droit d'auteur, les gens qui combattaient l'extension des brevets sur les médicaments, et aussi les gens qui combattaient l'extension des brevets sur les semences, en fait. Et il dit, voilà, il faut faire une coalition de tous ces gens-là parce que l'ennemi, c'est la propriété intellectuelle qui va enclore le domaine public. Et le grand combat fondateur, ça a été, vous savez, en 98, il y a eu la loi Mickey Mouse. Mickey Mouse allait tomber dans le domaine public, c'est-à-dire allait devenir libre de droit. Et Disney a fait une grande campagne pour allonger la durée du copyright américain. Et ils ont réussi à le faire voter. Hein. Et ça a été un moment très traumatisant pour tous les gens qui se battaient pour les communs de la connaissance. Et là, à ce moment-là, Boyle va nous dire, les communs de la connaissance, c'est des communs intangibles de l'esprit. Et alors, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'il passe par une métaphore qui est physique. Il nous dit, c'est la même chose que la Terre. C'est un domaine public. C'est un territoire, en fait. C'est un espace, c'est un territoire, mais c'est un territoire qui n'est pas de ce monde. C'est-à-dire qu'on passe par une métaphore physique, tout en projetant ce territoire-là dans un autre monde. Bon, c'est très courant. Hein. Vous lisez Saint-Augustin. La cité de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on commence, et c'est exactement le mécanisme, le mauvais côté de l'utopie. Si vous voulez. On imagine une réalité, voilà, et on la projette dans un ailleurs. Donc là, à ce moment-là, les communs de la connaissance se sont fait vaporiser. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'on les a projetés dans le ciel bleu malarméen, là-bas, qu'on voit encore ici. Et on a complètement oublié la leçon d'Ostrom qui nous incitait au contraire à les voir aussi dans leur matérialité, etc. Arrive les gens qui vont commencer à faire du libre. Et eux, en fait, ils le font parce que ils ont connu l'époque où il n'y avait pas de propriété intellectuelle applicable, notamment au logiciel. Pendant très longtemps, les logiciels étaient complètement libres au sens où il n'y avait pas de copyright qui pesait sur eux, donc les informaticiens se les partageaient. Ils étaient vraiment dans le domaine public de James Boyle, voilà, un domaine complètement libre de partage. Et dans les années 80, le législateur américain fait une loi qui dit non, dorénavant, les logiciels, c'est des œuvres qui sont soumises à copyright. Et donc, énorme panique parce que ça allait surtout défaire les pratiques communautaires de partage de ces développeurs qui coproduisaient les logiciels. Et donc, leur idée, et c'est notamment Richard Stallman que je cite ici, hein, qui créer ce qu'on appelle les licences libres. Donc la première, c'est la GNU-GPL, qui est une licence en fait, qui retourne le droit d'auteur. Au lieu de poser des restrictions avec cette licence, vous consacrez des libertés. Et leur but, si vous voulez, c'était déjà de faire en sorte, cet article il est très important de Stallman, vous avez dit propriété intellectuelle, un séduisant mirage, donc qui dénonce la logique fictionnelle de la propriété intellectuelle appliquée à des œuvres de l'esprit. Et pour eux, c'est une manière de recréer le fameux domaine public que la propriété intellectuelle avait détruit. Ils disent, voilà, on est en train de nous faire perdre ce domaine public qu'on avait, nous allons le recréer nous-mêmes, parce que tout ce que nous allons produire, nous allons le mettre sur ces licences. Et là, vous avez une personne qui s'appelle Laurence Lessig, un avocat. C'est l'avocat qui a essayé de faire tomber la loi Mickey Mouse devant la Cour suprême et qui a échoué. Et il dit, bon, voilà, on ne peut pas empêcher la propriété intellectuelle d'avancer, donc ce qu'on va faire, ce qu'on va recréer un domaine public avec les licences, et notamment avec les logiciels. On va créer des logiciels libres et ça réouvrira cet espace. Voilà. Et lui, en 2001, il crée avec les licences Creative Commons un prolongement qui permet d'appliquer ça à toutes les œuvres, les photos, les romans, les vidéos. Le problème là-dedans, hein, bon, je vais me montrer critique. Moi, j'ai défendu pendant 10 ans les licences libres, hein, donc je condamne pas du tout ça et ça reste crucial. Mais le problème de cette façon de faire... Là, je vous ai mis des grands exemples de communs. Tous les logiciels libres, type Linux, Firefox, Wikipédia, OpenStreetMap et toutes les œuvres sous Creative Commons. C'est que si vous voulez, la réponse apportée est purement immatérielle. C'est-à-dire que vous avez une attaque qui est faite du champ de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, elle s'applique aux œuvres, hein, c'est-à-dire la couche la plus immatérielle. Donc la réponse va se faire dans l'immatériel, avec les licences. Et on va très vite considérer qu'est un commun numérique tout ce qui porte une licence libre. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre une licence sur un objet et vous avez un commun numérique. Or, si vous voulez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mettez une licence libre sur un logiciel, par exemple, que ça en fait réellement un commun. Notamment dans les licences libres, il n'y a rien sur la gouvernance. Un logiciel libre peut absolument être entièrement géré par une entreprise privée, sans communauté. Donc il y a eu un réductionnisme juridique, si vous voulez. Or, là aussi, c'est très ambigu, parce que, si vous voulez, Stallman, lui qui a inventé les licences libres, la légende raconte, mais c'est une légende qui est certainement vraie, qu'il les a inventées parce qu'il avait constaté que dans son laboratoire au MIT, hein, il était chercheur en intelligence artificielle au MIT, il n'arrivait plus à réparer son imprimante. Parce qu'en fait, l'imprimante, il n'avait plus accès au code source. Et elle était tout le temps buggée. Tombait tout le temps en panne. Et comme il n'avait pas accès au code source, il ne pouvait pas la réparer. Donc il a l'idée des licences libres le jour où il tombe sur ce problème et il se dit, voilà, moi je vais créer des logiciels qui vont garantir qu'on aura toujours accès au code source pour pouvoir... Et en fait, cette imprimante, elle est tout à fait matérielle. C'est-à-dire que c'est un objet, tout ce qu'il y a de plus physique, si vous voulez. Sauf que, voilà, on en a détaché. Alors voilà, j'en arrive là en vous disant, si vous voulez, si on veut faire atterrir les communs, eh bien, il va falloir se ressouvenir de ce qu'on appelle le cadre Ostrom et Elsess avaient un cadre moniste, c'est-à-dire qu'elles ne séparaient pas les ordres de réalité. Et nous, on est passé dans un cadre qui est dualiste. Voilà, les communs numériques sont passés dans une sorte de façon de penser qui sépare les ordres de réalité. Bruno Latour a beaucoup écrit là-dessus. Hein. Lui, il appelle ça un processus de purification. C'est-à-dire les humains... sont tout le temps en train de faire ce qu'il appelle des assemblages avec des objets physiques. Voilà. C'est ça qui crée des réseaux. Mais on a des processus de purification qui nous rétablissent des ordres, des zones ontologiques. Il appelle ça distinctes. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre pensée du numérique. Vous voyez, où on sépare les choses. Alors, quel est le problème dans cette vision des choses? Vous allez dire que tout ça est très évanescent. Mais si on veut faire atterrir les communs numériques, l'atterrissage va être brutal. Pourquoi? Parce que si on réinclut la couche physique, vous allez vous confronter à une réalité qui est beaucoup moins évanescente que. Voilà. Vous avez cette personne-là qui s'appelle Éloi Laurent, qui a écrit ce très beau livre qui s'appelle L'impasse collaborative, où il dit on nous a vendu l'économie de la connaissance comme une économie de l'apesanteur. Or, il dit l'économie n'a jamais été aussi pesante qu'aujourd'hui. Il nous dit l'économie qu'on nous vend comme immatérielle n'a jamais été aussi matérielle qu'aujourd'hui, en fait. L'idée comme quoi le numérique allait nous permettre de produire les choses avec moins de matière et tout est en fait très très fausse. Hein. Il explique par exemple que si on prend en compte réellement la consommation électrique des machines, Internet fait autant de gaz à effet de serre que le trafic aérien, et avec une croissance tellement forte que très certainement en 2030, ce sera devenu la première activité source de gaz à effet de serre. Si quand vous regardez une heure de vidéo en streaming, c'est comme si vous laissiez votre frigo allumé pendant un an. Et si vous envoyez un mail avec une pièce jointe, vous produisez autant de CO2 que si vous faites bouillir une bouilloire. Donc en fait, la consommation électrique d'Internet est très très préoccupante. Et à ça, il faut rajouter les coûts de production des machines. Un ordinateur, en fait, là, je sais pas, il doit peser peut-être 2 kilos. En fait, son poids réel, il est 1000 fois supérieur. Parce que pour faire cet ordinateur, il faut arracher 1000 fois plus de matière au sol, notamment, vous savez, les fameuses terres rares en Afrique, etc., qui a un impact extrêmement violent, si vous voulez, sur l'environnement, hein, tous les métaux qui sont à l'intérieur. Et en plus de ça, en fin de course, vous obtenez des déchets qui sont très difficilement recyclables. On peut recycler à peu près que 5% des déchets sur un ordinateur. Et évidemment, on les envoie en Afrique, notamment au Ghana. Vous savez, vous avez des montagnes de déchets. Donc, si vous voulez, le recontact, si on prend en compte la dimension vraiment terrestre au sens de la tour du numérique, on va toucher à des choses quand même très, très fondamentales. Et si on va plus loin, même, vous rappelez de Perry Barlow, là, le cyberespace, c'était l'inverse, c'était le meat space, l'espace de la viande. Mais si on prend en compte vraiment l'économie de la pesanteur, on va arriver jusqu'à la chute des corps, mais les corps réels. Hein. C'est-à-dire qu'en Chine, vous rappelez peut-être, il y a eu toute cette vague de suicides dans les usines de Foxconn qui assemblent nos iPhones, hein, notamment. Voilà. Et les gens se suicident, je trouve, très symboliquement, en se jetant du haut des usines. Et là, vous voyez que l'économie de la pesanteur reprend tout son sens. Quoi. C'est la pesanteur qui fracasse les corps au sol. Et autre chose que je trouve quand même qu'on oublie beaucoup, mais qui est très importante hein, quand même, vous avez eu récemment un numéro de cette émission-là sur YouTube qui est très intéressant, qui s'appelle Data Gueule, qui fait des montages avec des statistiques. Et en fait, une requête sur 4 sur Internet vise un contenu pornographique et c'est 30% des téléchargements. Donc, bon, l'espace de la viande, si vous voulez, il est. Non, mais je pense que c'est pas complètement anodin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on nous a vendu ça comme une projection de l'esprit où la chair allait se faire parole. Mais non, en fait, les humains, ils projettent aussi leur corps, quoi, tout simplement. Voilà, cette matérialité, elle revient comme ça. Voilà. Alors, ce qui, moi, me paraît extrêmement important, c'est de voir que, comme. Tout ça est indissociable, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des communs numériques, celui qui est le plus important aujourd'hui, c'est Linux, le système d'exploitation libre, il est complètement lié à cette technostructure physique. C'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs, on en a parlé ce matin, que les grands géants du numérique, de la Silicon Valley, en ont fait un enjeu stratégique pour eux et contribuent à son développement. C'est-à-dire que par exemple, la couche des serveurs, la fameuse couche du cloud là, qui serait immatérielle, elle tourne à 90% avec Linux. C'est-à-dire que même les serveurs d'Amazon tournent avec Linux. Et c'est ces serveurs-là qui consomment le plus. C'est pareil sur nos téléphones. Si vous n'avez pas un téléphone, un iPhone, vous avez un téléphone Android. Android, il a été fait à partir de Linux. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on nous vend, comme si on détache cet aspect matériel des communs numériques, on peut nous vendre ça comme quelque chose de formidable, etc. Alors qu'en fait, ils sont intrinsèquement liés à la technostructure physique. Et il y a un très gros problème à ne pas l'intégrer, si vous voulez. Si on veut inverser la tendance, et je vais finir là-dessus, il faut repenser le numérique et les communs numériques, mais depuis le sol et depuis le corps. Et ça, c'est extrêmement complexe. Moi, j'aime beaucoup ce qu'écrit Alain Damasio là-dessus. Hein. Il avait écrit un texte sur lundi matin où, alors c'est pas anodin, il était allé à la ZAD, après un séjour à la ZAD, il écrit un texte sur le numérique Là, d'ailleurs, on le voit, il est dans le plus beau des communs de la connaissance du monde. C'est la bibliothèque de Notre-Dame-des-Landes. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et lui, en fait, il écrit ce texte. Et si vous voulez, c'est un texte qui est très différent de ce qu'on lit sur le logiciel libre, parce qu'il écrit un texte qui s'appelle « Matériel libre, ville libre, Zada Center et RennesNet ». Et dans ce texte, il dit, il essaie de repenser qu'est-ce que ce serait que l'émancipation réelle avec le numérique. Il nous dit, l'émancipation partira de la terre et de la chair, mais elle sera aussi numérique. Mais ça implique de se réapproprier toute la chaîne logistique digitale, aujourd'hui intégralement privatisée et aliénée, c'est-à-dire aussi bien les câbles que la fibre, que les nœuds du réseau, les antennes, les VPN, les routeurs, et aussi les centres de données, les data centers. Et lui dit, il faut qu'on fasse des ZADA centers, c'est-à-dire des centres de stockage de données, mais autogérés et contrôlés par nous-mêmes. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il fait exactement la même chose qu'avait fait Charlotte Hess pour décrire ce qu'était Internet, c'est-à-dire qu'il repart du sol, il suit les câbles, et voilà. Alors il y a des gens qui font ça depuis très longtemps, qui ne sont pas les plus visibles dans le monde des communs numériques, mais qui sont des gens très importants, c'est ceux, les fournisseurs d'accès Internet associatif, c'est-à-dire des gens qui tirent les câbles et qui proposent un accès à Internet via des associations, souvent avec des prix, parfois c'est à prix libre, parfois c'est à des prix très réduits, et leur but c'est de couvrir les zones où ne vont pas justement les grands fournisseurs d'accès Internet, parce qu'il n'y a pas de marché. Et eux, ils disent, ben non, l'accès Internet, c'est un droit fondamental, donc nous, avec des associations, nous allons tirer les câbles et nous gérerons nous-mêmes la couche physique du réseau. Et bon, en France, c'est assez important. Il y a une fédération qui s'appelle FFDN qui fait ça depuis longtemps. Et le plus gros fournisseur d'accès Internet au monde, il est en Espagne, dans la région de Barcelone. C'est Wifi.net. Et ils ont implanté des milliers en fait de routeurs Wi-Fi qui permettent d'avoir accès à Internet, à tel point qu'en fait c'est devenu un service public, si vous voulez, là-bas. C'est dans la région de Catalogne. Et ils ont voilà, c'est devenu quelque chose de vraiment très important. Il y a eu ça aussi à Détroit quand la ville a subi vraiment le gros crash économique. Vous avez 40% des gens qui ont perdu accès à Internet et ils ont recréé un accès à Internet via des associations. Vous avez des gens comme Framasoft, l'association Framasoft, qui, à mon avis, eux, alors là, on va arriver à la question du translocal, qui sont dans cette logique-là, parce que ce qu'ils disent, ils combattent le cloud, justement, cette idée du stockage dématérialisé des données, en disant c'est un mensonge qui nous fait oublier cette couche matérielle. Nous, il faut qu'on s'en souvienne. Et ils imaginent que pour stocker nos données, on puisse passer par un collectif d'hébergeurs qu'ils imaginent comme étant des AMAP du numérique. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous sachiez où sont vos données, parce que vous allez avoir affaire soit à une association, soit même à une entreprise, hein, c'est pas un problème nécessairement, mais que vous avez une personne que vous connaissez, que vous pouvez appeler, et vous savez que vos données sont sur ces serveurs. Et ils ont fait une charte dans laquelle... ces gens-là prennent des engagements, notamment de ne pas utiliser les données à des fins d'utilisation des données personnelles. Donc, il y a un respect de la vie privée, etc. Et donc, ça crée un Internet qui redevient translocal parce qu'il est fédéré. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toutes nos données dans un nuage inaccessible, on les retrouve à un niveau qui est local. Et tous ces gens-là sont liés ensemble par cette fameuse charte qui est une promesse de non-usage des données. La différence, c'est que là, vous allez le payer, l'accès, le stockage. Vous n'allez pas le payer cher, mais vous allez le payer quand même. Parce qu'il faut quand même qu'ils fassent tourner leur machine. Alors que chez Google, vous ne le payez pas. Voyez, il y a d'autres gens qui font des choses intéressantes. Là, avec Philippe Hainaut et avec Laura Offrère aussi, on est dans un projet qui s'appelle sur les plateformes coopératives alternatives. C'est-à-dire des gens qui essayent de faire des alternatives à Airbnb et à Uber, qui luttent contre l'ubérisation. Ils essaient de voir qu'est-ce que ça pourrait être... un Airbnb alternatif, ça s'appelle les oiseaux de passage, des gens qui... qu'est-ce que ça pourrait être un Deliveroo alternatif, c'est CoopCycle. Et ces gens-là, en fait, ce qui est très frappant, je trouve, c'est qu'ils se construisent à partir du sol. C'est-à-dire qu'ils font des coopératives de livreurs qui sont dans une ville, et ensuite, ils font une couche, si vous voulez, par-dessus, qui va permettre, une couche logicielle qui va leur permettre de faire leur activité. Les oiseaux de passage, c'est ça aussi, ils font des collectifs dans des villes, notamment, la première, c'est autour de Marseille. Et vous avez des gens qui proposent des séjours. Et leur but, c'est de faire découvrir aux gens qui viennent le territoire avec des prix qui vont être, bien sûr, équitables. Et c'est donc nécessairement enraciné quelque part. Pour aller plus loin, il y a des gens qui ont essayé de théoriser ça. Notamment Michel Bowens, il avance une notion avec Vassilis Kostakis qu'il appelle le cosmolocalisme. où lui, il dit, bon, la formule qui résume ça, c'est ce qui est léger et global, ce qui est lourd et local. Il imagine ça tourné vers les coopératives de production de biens matériels. Il nous dit, aujourd'hui, on peut utiliser Internet pour mutualiser les connaissances, mais tout ce qui se fabrique devrait être fait au plus proche dans les villes, dans ce qu'il appelle des micro-fabriques, une sorte de Fab Lab. Et si vous avez quelque chose à fabriquer, les plans et toute la propriété, ce qui est couvert notamment par la propriété intellectuelle, devraient être partagés en ligne, en accès libre et créés collaborativement. Et ensuite, la fabrication devrait se faire au plus proche dans les villes, dans ce qu'il appelle des Fab Labs, notamment avec des imprimantes 3D qui permettent de rematérialiser les objets à la demande. Et il y a des villes, notamment à Barcelone, qui rentrent dans une alliance qui s'appelle Fab City, où ils imaginaient peut-être relocaliser 40% de la production matérielle. Bon, ils ne l'ont pas fait, hein, mais si on poussait la logique jusqu'au bout, ça pourrait. Et alors, un exemple de ce cosmolocalisme des communs, c'est par exemple cette initiative qui s'appelle l'Atelier Paysan. C'est des gens qui sont en SIC, qui ont commencé, je crois, dans l'Est de la France, et qui font du matériel pour les paysans qui font de la permaculture. Et leur idée, c'est de partager tous les plans sur Internet et de faire des ateliers où les paysans construisent eux-mêmes leurs objets pour se réapproprier le savoir-faire de construction. Et donc, les plans sont accessibles à tout le monde et vous allez avoir des gens qui vont faire des ateliers avec un modèle économique, hein, etc., au plus proche des paysans qui vont les refaire directement sur place. Et Michel Boens dit ça préfigure ce qu'il appelle les coopératives ouvertes qui savent partager les actifs immatériels et qui gardent leur activité au plus proche, etc. Je vais terminer. Je pense que la leçon de tout ça, c'est de sortir de ce que j'appelle le prophétisme rédempteur lié à Internet. C'est quelque chose, par exemple, qui est très fort chez Jérémy Rifkin, qui n'a pas très longtemps nous avait sorti un livre qui s'appelle « La nouvelle société du coût marginal zéro », qui est un livre que j'avais trouvé intéressant sur plein d'aspects, mais un peu problématique, parce qu'il nous vend l'idée que le numérique va nous faire rentrer dans une société où tout échange va se faire à coût zéro. Il n'y aura plus aucune... L'optimisation que permet Internet permettrait que la dépense énergétique arrive à zéro, et y compris pour la construction des objets. Même les objets, en fait, ne coûteront presque plus rien à produire, etc. Il nous dit, quand on arrivera là, ce sera le règne des communs sera arrivé, et le capitalisme s'effondrera de lui-même à cause d'une de ses contradictions internes. À force d'atteindre vouloir chercher la productivité, il atteindra ce seuil de productivité, et le capitalisme s'effondrera tout seul. Et voilà, quoi, tout va bien. Et parfois, chez Michel Boens, il y a un petit peu de ça. Moi, j'aurais certainement pas appelé mon livre « Sauver le monde », vous voyez, par exemple. Et moi, je trouve beaucoup plus intéressant la vision que cette femme promeut, qui s'appelle Anat Singh, avec son livre là, qui est incroyable, qui est d'ailleurs un livre qui croise complètement les communs et Bruno Latour, qui est très dans cet esprit-là, « Le champignon de la fin du monde ». Et elle avance une notion qu'elle appelle celle des communs latents, et elle nous avertit en nous disant les communs latents ne peuvent pas nous racheter. C'est-à-dire que n'attendons pas des communs une rédemption. Notre monde va certainement s'effondrer. Elle est dans cette logique-là. En tout cas, notre mode de vie ne pourra pas être prolongé. N'attendons pas des communs de prolonger à l'identique notre mode de vie et de nous sortir des crises dans lesquelles nous sommes. Et ça commence à atteindre des militants du numérique. Y compris des gens qui sont très proches de moi, notamment à la Quadrature du Net. Il y a quelqu'un qui s'appelle Félix Tréguier, qui est comme moi cofondateur de la Quadrature du Net, qui a écrit cet article là dans Reporter, qui nous a fait bizarre quand même, parce que c'est un gros tournant. Il a écrit un article pour dire, nous avons essayé de penser Internet comme un outil d'émancipation. Nous avons oublié le coût écologique que ça représentait. L'avoir oublié est une erreur majeure. Il dit, le seul moyen, c'est de faire un Internet low-tech, c'est-à-dire de revoir complètement l'infrastructure. Et tant qu'on considérera que les libertés sont compatibles avec l'infrastructure extrêmement pesante, on se trompera, en fait. Et il y a d'autres personnes qui avancent la notion de commun négatif aussi, qui est extrêmement intéressante. J'ai pas le temps de développer. Et donc, je vais terminer là-dessus. On a un très gros travail, je pense, à faire. Parce que tout ça a des implications. Moi, en tout cas, ça m'a pas mal remué de faire tout ce cheminement. Et je pense quand même que ça nous oblige à faire... beaucoup de revenir sur des choses. Il faut arrêter de voir Internet comme une utopie numérique dans ce modèle dualiste qui la projette dans un pseudo-territoire qui est hors du monde, Il n'y a pas d'or du monde. C'est ce que dit Latour aussi. Hein. L'or du monde, c'est le globe de la modernisation. Il n'existe pas. Voilà. Il faut le faire réatterrir. Ça peut réatterrir sur ce que... Ça, c'est une notion de Michel Foucault. Hein, qui... Il opposait l'utopie à ce qu'il appelait l'hétérotopie. L'hétérotopie, elle est dans ce monde, mais elle a des règles qui lui permettent de fonctionner autrement. Et Michel Foucault dit, on peut imaginer des utopies, mais on peut faire des hétérotopies. Et ça, ça se fait avec des règles, en fait. Et là, on retombe sur Ostrom, la capacité de faire fonctionner des espaces réels avec des règles différentes. Et là, c'est le plus fort des communs, la dimension instituante qui revient. Et pour ça, à mon avis, il faut faire une fusion entre la théorie d'Ostrom, mais en la lisant sérieusement, quoi, c'est-à-dire en reprenant vraiment ce qu'elle disait, et la croiser avec les éléments de Bruno Latour, notamment la théorie de l'acteur réseau, qui prend jusqu'au bout en compte la dimension physique, notamment en intégrant ce qu'il appelle les éléments non humains, qui peuvent être aussi bien des animaux que des objets technologiques, les lieux, etc., comme des acteurs au sens propre du terme, dans une vision qui les met à plat avec les humains. Voilà. Et je terminerai en disant, vous savez, on nous a vendu le futur d'Internet, ce serait l'Internet des objets, parce que maintenant Internet va arriver dans les objets. Voilà, tous les objets vont être connectés et ça va être formidable. Mais on a oublié de penser les objets de l'Internet. Et si on veut aller au bout, il faudrait, comme Latour, penser l'Internet des quasi-objets, c'est-à-dire des objets qui sont des acteurs, comme les autres, et penser cette couche d'infrastructure comme un acteur et le prendre réellement au sérieux. Je pense que c'est un programme de recherche qui s'ouvre, hein, parce que ça nous obligerait... j'ai juste l'intuition que mon avis, c'est une piste à suivre, mais voilà.